Et rebonjour à tous, on est toujours en direct sur 48FM, également sur l'aérodrome du Causse de Monde pour ce Festival des Aériennes, deuxième édition. Avec une grande chance, on est avec Hervé de General Electric en direct de ce festival. Salut.
Salut.
Merci de nous accorder un peu de temps pour parler un peu de toi, de ton groupe.
C'est avec plaisir.
Du concert de ce soir. Valérie.
Oui, ben on va peut-être commencer par parler du début de ta carrière. Donc General Electric, ça a été créé à San Francisco. Pourquoi être parti là-bas ?
En fait, tout simplement, c'est par amour pour la ville, en fait. Je ne suis pas parti tout seul, déjà, je suis parti avec ma femme, Sarah, et notre fille, Adèle, qui était déjà née à l'époque. Et on était parti en vacances à San Francisco, on est tombé totalement amoureux de cette région. Et on s'est dit, en gros, on a posé nos bagages, quoi, on a déménagé là-bas. Et c'était pas spécialement un choix musical, en fait. C'était plutôt de l'ordre de, on n'a qu'une vie, on essaye ça, on va voir ce qu'on est. Et puis ça s'est transformé en choix musical, effectivement, dans le sens où le projet qui est devenu General Electric, pour lequel j'avais déjà entamé quelques petites idées sur Paris avant de déménager là-bas, a fini de se fermenter là-bas, effectivement. Et puis la rencontre avec les gens de Quantum Projects, qui est un collectif de hip-hop de la région de San Francisco, fondé par DJ Shadow, Blackalicious, etc., m'a permis de continuer à nourrir ce truc là et le premier disque est sorti, donc c'était en 2003 maintenant, donc ça remonte un petit moment. Mais donc juste pour finir de répondre à ta question, je me suis pas dit je vais aller aux États-Unis pour faire un disque, on est parti aux États-Unis, puis il se trouve que la musique que je faisais s'est nourrie de ce voyage, quoi.
Et niveau musical, quelle différence on pouvait trouver entre, par exemple, une ville comme Paris à l'époque et San Francisco?
Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est même sans faire de musique, à partir du moment où tu voyages, je pense que tu es nourri par toutes ces nouveautés, les choses que tu ressens. Tu es constamment face à quelque chose, tu es dans la découverte constamment. Donc en fait, ça nourrit tout ce que tu vis. Et à fortiori, effectivement, en tant qu'artiste, ça a un impact dans le sens où ça finit par rentrer dans ton ADN et ça finit par ressortir. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins littérales, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir tourné avec les gars de Blackalicious, d'avoir fait les claviers avec eux pendant plusieurs années, ça a eu un impact sur l'élément de hip-hop qu'il y a dans la musique de General Electric, puisque la musique que je fais est un mélange de genres, tu vois. Et puis des choses moins littérales, tout simplement le fait de vivre au soleil pendant 12 ans d'affilée, c'est quelque chose qui a un impact sur le moral et donc sur la musique que tu fais. J'aurais peut-être pas fait une musique aussi ensoleillée si j'avais pas fait ça. Et puis juste le concept, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai que les Américains ont tendance à t'encourager quand tu lances quelque chose, quand tu essayes de faire quelque chose, plutôt que de te mettre des boulets aux pieds, ils disent mais ouais vas-y essaye, puis on verra. Et moi je suis claviériste à la base, je suis pas vraiment chanteur et je suis pas sûr que je serais passé derrière le micro si j'étais resté en France par exemple.
Ouais, c'est une ville extrêmement libre, surtout à l'époque, très très ouverte. San Francisco, je sais pas trop maintenant. Mm-hmm. Ça aussi, ça a dû t'aider, cette liberté de pouvoir faire ce que tu voulais faire.
Oui, ouais, tout à fait. Et puis, c'est une ville qui est aussi assise sur un historique assez balèze, culturellement parlant. Et donc, tu as l'impression de monter dans ce train-là quand tu déménages là-bas et tu te sens pas investi d'une mission. Ce serait trop de dire ça, mais en tout cas, tu te sens poussé au cul, quoi. T'as envie de faire quelque chose. Ouais.
Alors, pourquoi après une dizaine d'années, décider de revenir en France ?
Là ça touche à quelque chose auquel tu as insinué, c'est que San Francisco a beaucoup changé en fait pendant ces 10 dernières années, ça s'est énormément gentrifié et c'est plus la ville vers laquelle on a déménagé.
C'est quoi, c'est la Silicon Valley,
ouais,
tout ça.
Ouais c'est ça, il ouais. Ouais, y a maintenant des gens avec des salaires absolument faramineux là-bas qui sont donc dans l'industrie de la tech et qui viennent à San Francisco, qui n'ont pas réellement de concept de ce qu'est la culture de cette ville, et puis qui la respectent pas plus que ça, en fait, qui sont là pour faire des gros dollars, et ça a vraiment changé l'atmosphère de la région. En fait, tous les gens qui ont rendu la ville cool, mais malheureusement, c'est un phénomène de gentrification qu'on voit dans beaucoup de grandes villes cosmopolites de nos jours, mais tous les gens qui ont donné son intérêt à cette ville, culturellement parlant, ne peuvent plus y habiter, et donc sont obligés de déménager, d'aller ailleurs, et ça fait une ville moins riche, tout simplement, culturellement parlant, enfin, à mon goût. Et donc, on voulait pas trop cautionner ça avec ma femme et nos enfants. Donc, on s'est dit, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et puis, on a découvert Berlin. On a beaucoup aimé Berlin. Et on habite là-bas depuis 6 ans maintenant.
Alors justement, sur l'album Carrie No Ghost, c'est ton dernier ?
C'est le dernier, oui.
C'est le dernier, oui. On sent des sonorités allemandes, notamment au niveau des claviers sur certains morceaux.
Oui, c'est peut-être plus électronique, effectivement. Ouais. Donc, ça revient à la question de tout à l'heure. Effectivement, je pense que quand tu déménages quelque part, t'es un petit peu un buvard, quoi. Tu prends ce qu'il y a autour de toi et puis ça finit par rentrer dans ce que tu fabriques, à ressortir par tes doigts ou tes textes, ta voix, etc. Même si c'est pas nécessairement volontaire ou conscient, tu vois. Et effectivement, il y a de ça, je pense.
Tu auras ces claviers du coup sur scène alors, tu les prends avec toi en tournée ou pas?
Alors, certains des claviers, ouais. Bah, j'ai depuis longtemps en fait, je tourne avec un clavinette sur scène qui pour le coup est un clavier que j'utilise depuis longtemps, donc avant le déménagement à Berlin. Sur le dernier album Carry No Go, j'ai surtout utilisé un truc qui s'appelle un Prophet 5, qui est un synthé fait par Sequential Circuits à la fin des années 70, 1978 pour être précis, et c'est le premier grand synthé polyphonique, donc avec lequel tu pouvais faire plus d'une seule note, tu peux jouer des accords avec, ce qui n'était pas le cas avant, tu pouvais jouer qu'une note en fait, il y avait un seul signal avant ce synthé-là, et puis j'adore ce truc, mais par contre c'est assez fragile, donc je ne l'emmène pas sur scène, et j'ai un autre synthé pour le remplacer sur scène.
Et pour en revenir au chant, aux paroles, maintenant tu chantes en français, je pense à la chanson « Tire à la carabine ». Est-ce que c'est le fait de t'être rapproché de la France qui a fait faire ce choix-là?
Absolument, ouais, tout à fait. Ouais, aux États-Unis, en fait, moi déjà, je suis franco-britannique en fait, à la base, donc j'ai été élevé de manière biculturelle dès le début et bilingue. Et puis j'ai vécu mon adolescence à Londres de 13 ans à 17 ans. Et puis il y a donc eu ce déménagement à San Francisco dont on a parlé tout à l'heure, qui fait que beaucoup des idées de texte ont eu tendance à me venir en anglais, puisque j'étais entouré de gens qui parlaient l'anglais pendant ces 12 ans-là. Même s'il y avait un texte en français sur le tout premier album qui s'appelait « Tu m'intrigues », mais c'était justement un texte que j'avais écrit à Paris avant de déménager à San Francisco. Et donc, pour revenir à ta question, effectivement, encore une fois, ton environnement t'influence et d'être de retour en Europe et donc de passer plus de temps en France et de plus être entouré d'anglais, enfin de la langue anglaise constamment, ça fait qu'il y a des idées de textes qui sont venues en français sur ce nouvel album, effectivement. J'étais ravi de constater ça. C'était pas spécialement volontaire, en fait, mais j'étais heureux de voir ça puisque ça fait aussi partie de ma culture, bien sûr, la chanson française.
Alors, j'ai lu quelque part que justement cet album, tu l'as écrit en tournée. Du coup, ça s'en ressent sur cet album, cette dynamique, la scène, on sent cette force-là. C'était nouveau pour toi d'écrire un album en tournée et donc de t'imprégner de tes voyages musicaux pour écrire un album?
Ouais, c'était nouveau dans le sens où j'ai plutôt tendance à être monotâche. Jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je faisais un disque, je partais en tournée, j'attendais la fin de la tournée, puis je faisais un disque, tu vois. Et là, ça s'est fait de manière assez naturelle. C'était pas, en fait, ce projet-là, ça part toujours d'une envie pour moi. Donc, il y a eu un moment où j'avais plus spécialement envie de faire General Electric, c'est donc j'ai pris un break. C'était après le troisième album, la tournée de Parker Street. Et il y a eu 4 ans entre donc l'album Parker Street et l'album avant le dernier, donc To Be a Stranger, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et donc pendant ces 4 ans-là, j'ai pas fait de scène du tout, ce qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Mais donc, au moment de la tournée, de commencer la tournée de To Be a Stranger, là, j'ai redécouvert la scène et c'est ça qui a généré de nouveau des idées, les idées qui ont fini par devenir ce nouvel album. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça s'est imprégné de la scène. Mais je m'étais pas dit, OK, cette fois-ci, je vais essayer de faire un album pendant une tournée. C'est arrivé de cette manière-là, quoi.
Et justement, dans cet album, il y a un titre un peu spécial, Amour Hubert Alès, qui est chanté en plusieurs langues. Tu peux nous en parler un peu de ce titre?
Ouais, tout à fait. Ouais. Merci de parler de ça. Effectivement, c'est un morceau assez important pour moi. À plusieurs titres, en fait. Déjà, ça correspond un petit peu à ce qui se passe dans ma tête, puisque j'ai du mal, comme vous pouvez le constater, à parler juste une seule langue, même le français. Finir vraiment bien une phrase en français, c'est assez compliqué pour moi maintenant, parce que comme j'ai vécu dans plusieurs pays et qu'il y a plusieurs, je me retrouve avec plusieurs langues dans la tête, quoi. Et je parle assez mal l'allemand, tu vois. Bon, par contre, je parle bien l'anglais, mais donc il y a des mots qui me viennent en allemand, même au milieu d'une phrase que j'ai commencé en français, si tu veux. Donc ça me bottait assez l'idée d'écrire un morceau comme ça pour montrer ce qui se passe dans ma tête. Et puis aussi c'était aussi, et ça c'est plus par rapport au contenu textuel du morceau, c'était une réaction à tout ce qui se passe actuellement, cette libération de la langue de la haine qu'on voit avec le Brexit, avec Trump, avec la montée du FN, ce qui s'est passé pendant les dernières élections en France, où tout le monde a l'air de trouver ça normal maintenant de dire qu'on déteste son voisin, et en tout cas les gens qui éprouvent ce genre de sentiment. Et moi je trouve ça infect, et donc ça me faisait du bien. Je prétends pas changer quoi que ce soit avec ce morceau, mais ça fait du bien par où ça passe de faire un morceau qui chante autre chose en fait, et là, ça parle de ça, ça parle de l'ouverture vers l'autre, l'amour vers l'autre, même quelqu'un qu'on ne comprend pas nécessairement, et qui parle peut-être une autre langue, qui arrive chez soi et qui est un étranger, quoi, et savoir apprécier la différence des gens. Donc c'est ça, Amour Uber Alès, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi je trouvais que ça avait du sens de l'écrire en plusieurs langues.
Tu as fait quoi là en tout, 6 albums studio?
5 albums studio et un album live.
Et un album live, ouais. T'as fait un break, c'est pas compliqué, 6 albums c'est long, hein. Tu as une longue carrière.
Bah, en fait, ouais, enfin, de nos jours, ça peut paraître long, effectivement. Si tu regardes les années 60 ou 70, t'avais des gens qui avaient des carrières, qui faisaient 20 albums, quoi.
Oui,
mais de nos jours, c'est vrai que les carrières, c'est plutôt un ou deux disques. Donc, oui, effectivement, c'est en sortant cet album, je l'ai pas vraiment fait exprès, en fait, encore une fois, vu que ça vient d'une envie, à chaque fois, mais de faire un disque, donc, mais je me suis rendu compte en sortant cet album que ça commençait à ressembler à une carrière, effectivement. C'est, bah, je suis ravi, enfin, c'est super de voir que ça continue, que les gens sont là, continuent à venir, les clubs sont pleins, les gens ont l'air contents de nous voir continuer à faire ces concerts et puis de voir ces disques sortir. Donc c'est un vrai privilège, hein. Je ne prends pas ça à la légère. Être dans une situation où on peut gagner sa vie en faisant la musique qu'on a envie de faire quand on se lève le matin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Donc j'ai pu réussir à faire ça et puis accompagné bien sûr par les musiciens qui se joignent à moi sur scène, et c'est quelque chose de très spécial.
En étant à l'étranger, c'est plus difficile de se faire connaître en France. Nous, on t'a connu par Raid the Radio qu'on a entendu au début. Quand t'as sorti ce morceau, tu savais que ça allait exploser, que c'était de la bombe?
Non, moi j'ai commencé General Electric, j'avais déjà une dizaine d'années de carrière musicale dans les pattes, dans d'autres projets, au sein de d'autres projets où j'étais claviériste, hein, notamment un groupe qui s'appelait Vert Coquin. Et donc j'avais déjà une certaine expérience, enfin en tout cas j'avais déjà vu assez de groupes que moi je trouvais incroyables ne rien faire au niveau succès, et puis des groupes que je trouvais sans intérêt, cartonnés. Et donc à partir du moment où tu as réalisé ça et que tu l'as intégré, tu réalises que tu sais jamais ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher. Enfin, c'est très compliqué de savoir. S'il y avait quelqu'un qui saurait, il ferait des tubes constamment et tout le temps, et ça n'arrive jamais, ça. Enfin, tu as des gens qui arrivent à avoir le doigt sur le pouls de ce qui fonctionne pendant quelques années, et puis après ça s'arrête. Il n'y a pas juste une formule, il n'y a pas juste une manière, tu sais jamais trop. En fait, il faut que les étoiles s'alignent aussi. Bon, ça a été le cas avec ce morceau, Raid the Radio, effectivement. Je pense qu'il a effectivement peut-être dans son ADN même quelque chose d'assez catchy, tu vois, avec les sifflets, etc. Mais bon, je peux pas te... Non, moi je me disais... Ouais, j'espérais que ça allait faire quelque chose, mais de là à me dire, c'est sûr, non, moi, la certitude en musique, ça n'existe pas. Enfin, moi, je pense pas.
La musique que tu aimes faire, c'est un mix de sons, d'influences, de couleurs différentes, c'est ça?
Oui, c'est ça, absolument. Ouais, j'aime bien. En fait, ce qui m'attire dans la musique et l'art en général, c'est la liberté, le concept de pas nécessairement obéir à des règles. Alors après, on a tous des petites règles qu'on se met dans nos têtes. J'imagine que j'en suis sûr, même aussi, j'ai des murs dans ma tête comme tout le monde. Mais j'essaye de faire en sorte de pas me limiter. Et j'aime autant des artistes de hip-hop, que des artistes de funk, que des artistes de soul, que de rock, que de pop, que de musique électronique, que de musique classique, etc. Donc j'essaye de mettre tout ça dans le sac, en fait, de secouer et de voir ce qui va en ressortir, de faire passer ça par mon filtre à moi, et puis d'espérer que ça donne quelque chose de digeste, pas juste pour moi, mais aussi pour d'autres gens qui vont l'écouter. Et c'est ça le principe du projet, effectivement, c'est de pas se dire, ok, là je vais faire un album de rock, ou là je vais faire un album de funk, mais c'est plutôt prendre toutes ces choses-là, toutes ces choses que moi j'aime, et puis pas trop me poser de questions.
C'est vrai que ce côté électronique te donne un aspect contemporain, mais on sent ces influences des années 60, 70.
Oui, tout à fait. Ouais.
On sent que c'est super important pour toi. Le tempo fluctuant aussi, je voulais en parler. Moi, qui suis fan des Beatles.
Ah ouais.
Tu l'utilises beaucoup dans tes morceaux.
Ah ouais, tout à fait.
Accélération. Tu peux nous décrire pour nos auditeurs qui savent pas ce que c'est?
Merci de parler de ça. Je pense que c'est la première fois qu'on me parle de ça.
Ah ben,
et c'est quelque
plaisir.
C'est quelque chose d'important pour moi, effectivement. Je pense que c'est. Alors, il y a beaucoup de choses dans la musique de nos jours que j'apprécie énormément. Mais je pense qu'il y a, malheureusement quelque chose qu'on a un petit peu perdu, c'est l'utilisation du tempo, du changement de tempo, de la fluctuation de tempo comme faisant partie du vocabulaire musical. Et je pense que c'est vrai qu'on est maintenant un petit peu esclave de l'ordinateur, du clic, etc. On n'est pas obligé de l'être, bien sûr, mais j'aime bien le concept de pas être assujetti à ça et de considérer qu'on peut sur un refrain pousser le tempo parce que le refrain il nécessite ça, et puis ensuite on arrive sur le couplet, on ralentit un petit peu, on utilise ça comme faisant partie des armes qu'on peut utiliser, quoi. Et aussi bien sur scène où là clairement nous on n'utilise pas il y a pas de laptop, il y a pas de séquence, quoi que ce soit, tout est joué. Donc les tempos sont jamais exactement les mêmes, si tu veux, ça bouge un petit peu, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Faut pas que ça bouge trop non plus. Faut que le morceau garde son sens et sa personnalité, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est pas de faire quelque chose de complètement carré, de complètement contrôlé. Et sur disque aussi, même si je vais travailler je vais ouvrir des sessions dans le software que j'utilise, qui est Pro Tools, où je vais mettre un tempo. Bah parfois je vais programmer que le tempo fluctue parce que je me dis, ah bah là sur ce refrain là, un morceau comme We Ride qui est sur Parker Street par exemple, Le couplet, pour moi, il fonctionne à un tempo, le refrain, il fonctionne à un autre tempo. Donc, j'ai programmé des changements de tempo, tu vois. Pareil sur Rebel Sun. Il y a plusieurs morceaux comme ça, en fait, sur les disques de General Electric.
Et alors, tu te vois où dans 2 ans ?
J'en ai pas la moindre idée. C'est un petit peu l'idée, en fait. C'est de pas trop se poser de questions et puis de laisser la vie nous porter, quoi. Il y a un pays que moi j'aime beaucoup, c'est le Brésil. J'ai eu la chance de collaborer avec Seu, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup, qui est une chanteuse brésilienne, chanteuse pop, qui fait une sorte d'MPB contemporain. Je suis très fan et elle m'a demandé de co-réaliser son dernier album avec Pupilo, qui est un batteur assez sensationnel brésilien et qui est réalisateur aussi. Et je suis toujours senti assez bien, musicalement parlant, en tout cas, dans ce pays-là. Donc peut-être ce serait une destination, une prochaine destination, je ne sais pas, on va voir. Il faut que j'en parle avec Sarah, ma femme.
Mande, la Lozère, c'est la première fois que tu te produis ici, en Lozère ?
C'est possible, en tout cas récemment, oui. Tu sais, ça fait longtemps qu'on fait des concerts. Hein. On joue depuis 2004, mais avec cette formation-là, c'est depuis 2009. Donc avec Jesse à la basse, Eric à la guitare, Thomas à la batterie et tout ce qui est à la batterie et au vibraphone. Et donc il se peut très bien qu'on soit passé dans la région, mais je ne me souviens pas exactement, je suis obligé d'avouer. Malheureusement, tout finit par se mélanger dans la tête.
Il y a tellement de dates. Mmh. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez venir écouter General Electric, c'est ce soir. C'est ce soir qu'il faut être ici sur le Cause de Monde. On va s'arrêter là. Il y a les balances de Lys et Steve Hewitt qui vont commencer. Ça vous évitera d'avoir des grosses lignes de guitare et de basse qui vont arriver. Merci beaucoup.
C'est avec grand plaisir. Merci pour ces questions.
Allez, merci. On se quitte avec un morceau de General Electric, justement, et on se retrouve dans quelques instants. Ciao. Zero. Tomorrow is a no-go, a no-go. Cold, cold moment when the first doubt shot through your head. A black ink drip running through your veins. Dark halos adrift, bringing you sweet pain. Pregnant seconds dripping through the hourglass. When the lure of men who would be king. Did you lose the man who was wearing your ring? He didn't match your last response tonight. You couldn't look him in the eye. Not tight, and so the jewel you once both had is left crumpled like a collapsed lung. When all you had to do was hang out in the sun, hang out in the sun. So you feel so dignified, your watch is very ornate, but you were just born in the right place, just born into the right. You're climbing Mount Everest now, granting wishes from above. Favors are yours to get there, lies are yours to live. Take back the instance that led you to believe that the earth shakes cause you're not happy, that the sun rises cause you're not sleeping. You got the loudest parade in town, clowns, assassins and crooks. You got ladies in see-through gowns reading extracts from your books. Beggars are trailing at the back, they're waving from the cardboard flow. You're thinking that the month closed, statistics can be such a drag. Your cup is full now, blood is the color of this wine, and it's dripping from the ceiling, and it's making the chandeliers ring. And the instant the ballroom overflows, your throne's turning to your gallows.